Nous amorçons un autre livre de la Bible. Nous allons prendre l'étude des Corinthiens, l'étude de l'épître de Paul aux Corinthiens. Il y en a deux, nous allons y aller un à la fois, une à la fois. C'est ce que je vais dire d'abord en introduction ce soir, c'est que l'épître de Paul aux Corinthiens, c'est une épître, comme celle des Galates que nous avons lue, une épître qui vient corriger une situation dans une église. C'est une épître qui est à caractère, pas instructif, mais correctif. Elle vient corriger une situation. Les Galates ont corrigé le malaise, rappelez-vous, le malaise qui s'était infiltré dans l'Église par les faux docteurs, par les judaïsants, hein, qui disaient qu'il fallait contrôler la chair par des rites, par des cérémonies, par certaines pratiques. Par contre, chez les Corinthiens, on vient corriger le comportement des Corinthiens, le comportement des croyants de Corinthe, qui, eux, s'attachaient et ont vraiment cédé à tout ce qui est désir de la chair. Il n'y avait plus aucun frein chez eux. Ils étaient vraiment en plein dedans. Autant les Galates contrôlaient la chair, mais en mettant des rites, eux n'avaient rien, n'avaient aucun frein. Donc, ils étaient en plein dedans. Alors, il fallait corriger leur comportement de croyants, justement, en changeant les habitudes. Parce que dans cette église, l'esprit du monde était vraiment plus influent que l'esprit de Dieu, l'église de Corinthe. Alors, il fallait corriger ça, parce que Paul est celui qui avait donc implanté cette église. Alors, toute l'épître de Paul aux Corinthiens, c'est vraiment c'est un enseignement, c'est des conseils qu'un pasteur, il se considère comme un pasteur qui est en train de donner des conseils, qui exerce son ministère auprès d'une église qui est en proie à toutes sortes de divisions, de troubles, etc. Nous allons le voir en avançant, c'était ça qui caractérisait vraiment l'église de Corinthe. L'auteur, on ne va pas s'étaler là-dessus, l'auteur c'est Paul, sans aucun doute. Il se nomme d'abord là-dedans, il se nomme dans l'épître en disant que c'est moi, Paul, qui est l'auteur, qui suis l'auteur donc de cette épître. Il commence par se nommer, donc il n'y a aucun doute. Alors il a implanté, après sa première visite à Corinthe, donc ça c'est en l'an 51 après Jésus-Christ, il a eu à séjourner pendant un an et demi dans la ville de Corinthe, et par la suite seulement, quasiment comme 3 ans ou 4 ans après qu'il a écrit l'épître aux Corinthiens lorsqu'il s'était rendu à Éphèse. Et donc, c'est ça. Je peux dire d'autre concernant l'auteur, c'est que la stratégie de Paul dans l'ensemble, c'était d'implanter des églises dans les grands centres. Il implantait les églises, mais il laissait la charge à ceux qu'il avait formés pour continuer à placer tous les fondements, le développement de l'église et puis la formation des disciples. Ça, c'était la responsabilité des responsables locaux, des dirigeants locaux des églises. Le destinataire, c'est clair, c'est l'assemblée. L'assemblée, ce n'est pas comme chez les Galates, les assemblées de Galatie, les églises de Galatie. Ici, c'est l'assemblée de la ville de Corinthe. C'est une église qui était en pleine croissance, une église qui augmentait jour après jour dans le nombre de gens, mais des gens composés de tous les milieux. C'était un groupe hétérogène. On trouvait là-dedans des intellectuels grecs qui étaient dans cette église, on trouvait là-dedans des patrons romains, on trouvait des esclaves qui étaient affranchis, qui s'étaient convertis, on trouvait dans cette église des croyants juifs. C'est vraiment une église hétérogène, c'était pas homogène, mais c'était hétérogène, toutes sortes de composantes qui est donc, on va la voir par la suite, à la base de toutes les divisions, les interprétations différentes qu'il y a eu dans cette église. Alors, l'église est à Corinthe. Alors, il faut qu'on dise un mot sur la ville de Corinthe. Corinthe, c'était une grosse ville, une ville animée, très animée, mais une ville prospère parce que c'était une ville où passait tout le trafic entre le nord et le sud de la Grèce. Donc c'est comme une ville transit où tout passait. Alors vous imaginez, tous ceux qui vont du nord au sud transitaient par Corinthe. C'était vraiment une ville très, très animée, un centre d'affaires aussi, très, très important, où se retrouvaient mixer donc les cultures orientales et les cultures occidentales. Alors tout ça est à la base. Je suis en train de placer les bases pour que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé par la suite. Ce qu'on peut s'attendre dans un grand centre comme ça, ça va être un carrefour de plaisir également. Un carrefour de plaisir, de débauche et toutes sortes de malversations, d'ivrognerie en tout cas, toutes sortes de mots. Un centre vraiment d'idolâtrie également. On dit qu'il y avait dans la ville de Corinthe le temple de la déesse Aphrodite, qui était la déesse de l'amour. Et dans ce temple vivaient des milliers de femmes prostituées, des prêtresses d'Aphrodite. et qui attendait des hommes, donc qui venaient là-bas, etc. Et tous les soirs, donc, ça partait de là pour aller à la rencontre des hommes dans la ville. C'est une ville vraiment souillée. Elle était réputée également, compte tenu, c'était un centre commercial important pour son matérialisme et sa déchéance morale. Dans le langage courant, à l'époque, quand on parlait d'une fille de Corinthe, pour ne pas dire une prostituée. Une fille de Corinthe, c'était dire une prostituée. Ce qu'on disait aussi dans cette époque-là, c'est qu'il y avait comme un proverbe d'avertissement des gens, dit « Le voyage à Corinthe n'est pas pour tout le monde. Bon, il faut être solide pour y aller, pour ne pas tomber dans les pièges qui se présentent. » Donc, ça nous montre un peu pourquoi donc le Seigneur, pour toutes ces raisons, a envoyé, et il a parlé à Paul, on peut le lire dans Actes des Apôtres, chapitre 18. Il a parlé à Paul dans Actes 18, je vais lire à partir du verset, c'est en fait, ça parle du ministère à Corinthe, mais à partir du verset 9, dit ceci. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, il dit « Ne crains point, parle, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi, parce qu'il était pour chasser, etc., parce qu'il allait enseigner dans les synagogues. Donc, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et il y demeura un an et 6 mois, je disais un an et demi, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il faut que tu parles. Même si on te menace, il faut que tu parles. J'ai un peuple nombreux. Beaucoup sont perdus et j'ai un peuple nombreux à sauver dans cette ville. » Et donc, c'est comme ça qu'il est allé, à Corinthe. Et puis, il est parti seul, mais il est arrivé là. Il a trouvé une famille, un couple juif qui avec lequel ils ont développé des relations spirituelles d'abord, mais aussi des relations d'affaires. Si vous continuez dans le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir au chapitre 18 au début là, où on dit que c'était aussi des marchands, des fabricants de tentes comme Paul. Donc, ils se sont retrouvés, quelque chose en commun, c'était le spirituel, mais c'était aussi le professionnel. Ils avaient quelque chose en commun, si bien que ça a connecté tout de suite et ils ont pu travailler ensemble. Alors, je vais prendre quelques subdivisions avant d'entamer l'étude proprement parlée. Les subdivisions de l'épître, la première épître de Paul, il y a 16 chapitres en tout là-dedans. Les 4 premiers chapitres ont été écrits pour régler les problèmes de division. Il y avait tellement de factions, tellement de camps, tellement de divisions, des problèmes qui ont été soulevés par ce qu'on appelle des gens de Chloé. Chloé, c'est une dame sans doute qui faisait partie de l'église de Corinthe. Hein, qui faisait partie de l'église de Corinthe. Donc, quelqu'un d'important dans l'église qui, voyant tous les problèmes qui se passaient dans l'église, toutes les divisions, a dû envoyer des émissaires ou alors a écrit à Paul pour le mettre au courant de la situation. Alors, dans les 4 premiers chapitres, il est en train de régler tous les problèmes qui lui ont été soumis par les gens de Chloé. Les chapitres 5 à 6, ça règle des problèmes d'immoralité qui ont été rapportés par la suite par des représentants de l'église qui était parti rencontrer Paul à Éphèse. Alors, plus loin, on le voit, on en parle dans le chapitre 16, verset 17, on parle de Stéphanas, de Fortunatus et d'Acaïus, qui étaient les envoyés de l'église de Corinthe vers Paul pour lui dire, voilà, tous les problèmes qu'ils avaient vécus à l'interne, problèmes d'immoralité, on va les voir plus tard. Et les chapitres 7, jusqu'à la fin, il répond donc à toute une série de questions, de toutes sortes de questions qui se posaient dans l'Église. Hein. C'était lui qui avait fondé, c'était lui qui est le tenant quasiment de la doctrine, de tous les enseignements. Il fallait donc qu'on s'assure que ce qu'on fait, est-ce qu'on le fait bien. Alors, on lui écrivait pour lui poser toutes sortes de questions pour clarifier des situations sur le mariage, sur les dons spirituels, sur l'ordre, comment l'ordre doit être mené dans l'Église, sur l'argent destiné aux pauvres, etc., comment collecter, etc. Il y avait tellement de questions. Tellement il y avait des discordances là-dedans, alors on voulait avoir l'heure juste et on s'est adressé à Paul. Voilà donc les subdivisions qu'il y a dans cette première épître de Paul. Alors on va y aller à partir du chapitre 1er, je vais lire les 3 premiers versets. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints, par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Paul, comme dans ses habitudes, il se présente pour dire « Je suis un apôtre de Jésus-Christ, pas à la volonté de Dieu ». Toujours le même enseignement, le même ton qu'il utilise pour dire « Non, non, même si on me conteste, mais je suis apôtre de Jésus-Christ, pas par la volonté d'un homme, mais par la volonté de Dieu ». Et comme il veut toujours dire, écrit dans ses lettres, si on regarde dans Galates, on a vu la même chose. Galates, comment ça commençait, il disait, « Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ, qu'il a ressuscité, et tous les frères. » Donc, il associe toujours d'autres personnes avec qui il est, pour montrer que ce n'est pas juste ses propos, et que les autres qu'il cite sont aussi d'accord avec lui dans ce qu'il va écrire. Donc, il dit, il parle aussi de Sosthène. Et le frère Sosthène, qui était quelqu'un de connu dans l'Église, c'est d'ailleurs, dans les commentaires, on dit que c'est un ancien responsable de la synagogue. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'est converti du judaïsme vers la chrétienté. Et on dit qu'il a été battu, maltraité à cause de sa conversion. Alors, on pense que Sosthène est devenu le secrétaire de Paul, qu'il aurait voyagé avec lui, en tout cas, qu'il était le secrétaire de Paul et qui a donc permis d'envoyer cette lettre. Alors, maintenant, avant, nous disons que dans les débuts ici, il veut reprendre les chrétiens de Corinthe, les croyants de Corinthe, il veut les reprendre pour tout le mal qu'il a entendu qui se passait dans l'Église. Mais avant de les reprendre, on voit qu'il leur parle avec amour. Il leur parle comme à des frères. Il dit, je m'adresse à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. Malgré les faiblesses qu'il y a là-dedans, il les considère comme encore des croyants, comme encore des frères dans le Seigneur. Il dit, je m'adresse à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. Je m'adresse à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, qui sont saints par vocation. Saints par vocation, quand nous donnons notre vie au Seigneur, nous sommes saints, nous sommes sanctifiés par vocation. C'est une position que nous avons en Christ, que personne ne peut changer. Le fait que nous soyons appelés, nous sommes en Christ, nous sommes sanctifiés. Donc, nous sommes sanctifiés par rapport à notre position, nous sommes déclarés saints par rapport à notre position en Christ, en dépit de tous les écarts que nous pouvons avoir. Et nous allons voir qu'il a beaucoup été critiqué, Paul, à ce sujet. Il a beaucoup été critiqué à ce sujet. Il s'adresse non seulement à l'église de Corinthe, il dit à l'église de Corinthe, à l'assemblée, à l'église de Dieu. Il ne dit pas, même s'il sait qu'il y a des factions, il ne s'adresse pas à l'église d'Apollos ou l'église de Céphas. Non, il s'adresse à l'église de Dieu, parce que l'église de Dieu est une et indivisible, elle est unie. Et enfin, il s'adresse aux croyants de partout, dont nous aujourd'hui. Il dit, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit, qui liront cette lettre, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Et il prononce donc sa bénédiction, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je disais que Paul a été critiqué, il a souvent été attaqué justement parce qu'il a comme un évangile qui est radicalement gratuit. Pour lui, l'évangile est gratuit. Tu donnes ta vie au Seigneur, tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé, point final. Donc, tu es en Christ, tu es une nouvelle créature, tu es sanctifié par ta position en Christ. Mais ce qu'ils oublient, c'est que Paul, le même Paul, encourage pourtant une vie de piété. Ceux qui l'attaquent, ils disent, oui, mais lui, en disant ça, il encourage les gens à vivre dans l'impiété parce qu'ils disent, quand ils sont en Christ, ils sont sanctifiés, ils sont saints par leur vocation. Cela est vrai et personne ne peut le changer. Mais il faut y demeurer. Et il faut y demeurer. C'est pour ça que la sanctification n'est pas quelque chose d'instantané. La sanctification doit être progressive. Progressive. Nous avons une position dans laquelle nous sommes sanctifiés, mais nous devons aussi nous sanctifier de manière progressive. Donc, cette sanctification, cette position, ce privilège que nous avons d'être saints dans le Seigneur doit nous pousser à donner une réponse conséquente à cette grâce, à cette bénédiction que nous avons. Nous devons donner une réponse donc appropriée et continue, et pas seulement la repentance que l'on a fait au début, et c'est ça. Et donc, le résultat de tout ça, c'est les bonnes œuvres que nous faisons, c'est le résultat, évidemment, de notre engagement et de notre position dans le Seigneur. Voilà donc pour les trois premiers versets. Il donne donc les salutations, et à partir du verset 4 au verset 9, on va lire, « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. On voit que c'est vraiment un bon pasteur. Il dit, je rends continuellement grâce. Ça montre la passion qu'il a pour les âmes. Ça montre la passion qu'il a pour son Église. Ça montre la passion qu'il a pour des bien-aimés. Il dit, je ne rends pas grâce lorsque j'apprends des nouvelles sur vous. Je rends continuellement grâce. Et un homme passionné, un homme zélé pour ce qu'il fait. Et c'est extraordinaire si nous pouvions tous être comme ça, être zélés pour ce que le Seigneur nous demande de faire, être zélés pour les âmes, rendre grâce continuellement à Dieu pour ce que nous voyons dans l'Église. Rendre grâce continuellement. Amen. Et quand il rend grâce à Dieu, donc, et il commence à énumérer, donc, jusqu'au verset 9, quasiment, toutes les bénédictions que nous avons dans le Seigneur. Il rend grâce à Dieu pour toutes les bénédictions qui sont réservées aux élus. Alors, il y a trois catégories, on va dire, de bénédictions là-dedans. Des bénédictions passées, des bénédictions présentes et des bénédictions à venir. On voit le verset 4b où il dit, « Je rends grâce pour la grâce, de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. » Il rend grâce pour ce qui nous est offert par Jésus-Christ, une grâce spéciale, une grâce particulière que nous avons au moment de la conversion. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes convertis. Et il rend grâce à ça. Ça, c'est des choses du passé. Il dit aussi au verset 5 et 6, il rend grâce aussi pour ceux qui ont accepté cette offre. L'offre est faite à beaucoup de gens. La grâce de Dieu, elle est offerte à beaucoup de gens. Mais combien ont saisi? Il rend grâce à ceux qui ont accepté cette offre. Et cette offre qui consiste donc en toutes sortes de richesses de la parole de Dieu et de la connaissance. Et verset 5 et 6, il dit, En lui, vous qui avez accepté, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, ainsi que le témoignage de Christ ayant été solidement établi en vous. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans le présent. Dans le passé, vous avez reçu toutes ces choses, mais aujourd'hui, il ne vous manque aucun don en attendant la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez tout ce qu'il faut pour mener une vie chrétienne stable. Vous avez tout ce qu'il faut pour mener une vie chrétienne qui vous fait progresser de jour en jour. Vous avez tout ce qu'il faut, tous les dons sont à votre disposition. Il ne vous manque aucun don en attendant le retour. Dieu a pourvu à tout. Et puis, les bénédictions à venir, il dit à partir de 8 et 9, donc il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour du Seigneur Jésus-Christ. Il dit que le Seigneur est fidèle. Il est fidèle et il ne veut pas que l'idée de son retour commence à rendre des gens anxieux. Vous savez quoi? Il y a des gens, je connais même dans l'église ici, qui ont peur de penser au jour du Seigneur. Est-ce que je serai prêt? Il a peur. Est-ce que moi, j'ai le salut? J'entends toutes sortes de choses. Non. Quand Dieu nous dit de nous préparer à ce jour, ce n'est pas pour nous rendre anxieux. Il est fidèle. Quand il nous dit de nous préparer, il est fidèle, dit-il. Et lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, il est fidèle pour vous affermir. Pour vous affermir, pour vous fortifier, pour vous donner tout ce qu'il faut pour que vous demeuriez attachés au Seigneur. Donc ce n'est pas le temps d'être anxieux, ce n'est pas ça le but de Dieu. Il dit, il est fidèle, lui qui vous a appelé, il est fidèle, il vous donnera tout ce qu'il faut pour que vous soyez irréprochables au jour du Seigneur. Il donne ce qu'il faut, mais à nous de le prendre. Il ne viendra pas le coller sur le visage, c'est à nous de le prendre. Mais il veut que nous puissions en tout temps communier avec le Fils. Il faut communier avec le Fils. Et concernant les Corinthiens, mais avant de communier avec le Fils, avant que ce jour vienne, il va falloir qu'il règle toutes ces divisions dont il va parler par la suite. Donc voici la première partie. Donc il fait les salutations, il s'adresse à l'Église, il montre que c'est l'Église de Dieu, ce n'est pas des différentes factions. Il s'adresse à l'Église de Dieu, il s'adresse à ceux qui sont sanctifiés en Jésus-Christ, qui ont cette position de privilège en Jésus-Christ, qui sont saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent le nom de Jésus partout où ils sont. Et il donne donc la liste des bénédictions. Ensuite, à partir du verset 10 au verset 17, là, il commence à exhorter fermement. Il commence à exhorter de façon peut-être forte, plus directe et de manière autoritaire. Hein? C'est bien. Il commençait par les encenser, etc., en disant, même s'il y a des choses qui ne vont pas, vous êtes des enfants de Dieu. Mais c'est ça. Donc là, il va commencer à exhorter fermement et de manière autoritaire, justement, l'Église. Alors, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités, on en a parlé tout à l'heure, hein, qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, que je sache, je n'ai baptisé personne d'autre. Il dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Il appelle donc au verset 10, je vous exhorte à vivre dans l'harmonie. En termes clairs, c'est ça. Je vous exhorte à vivre dans l'harmonie, à parler le même langage. Pas n'importe quel langage, mais le même langage, évidemment, quand ça touche à la doctrine, aux choses de la vie chrétienne. Parler le même langage. Ceci ne veut pas dire parler le même langage que il n'y aura plus de diversité. Nous avons vu que c'est une église qui était hétérogène. Il y a cette diversité qui va rester. Les riches vont rester riches, les pauvres seront pauvres. Il y aura toujours des riches et des pauvres. Il y aura toujours des juifs et des non-juifs. Il y aura toujours des gens intelligents comme les Grecs. C'est des gens qui philosophent, qui raisonnent beaucoup. Il y en aura, mais comme il y aura toujours des gens du peuple qui n'ont aucune instruction. Ce n'est pas ça qui importe, mais il dit, éliminez tout ce qui peut vous diviser du point de vue langage doctrinal. Soyez unis, parlez de façon harmonieuse. Versets 11 à 12, il dit, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Alors, il les encourage donc à éviter tout ce qui est esprit de rivalité, tout ce qui est esprit de parti. Il y en a qui disent qu'ils sont de Paul, parce que sans doute Paul a été à la base de leur conversion, je ne sais pas. On s'attache toujours à quelqu'un pour une raison ou une autre. Hein, et dit, moi, c'est par Paul que je suis venu, alors c'est Paul. D'autres, c'est par Apollos, parce qu'Apollos, on dit dans le livre des Actes des Apôtres 18, verset 24, que c'était un homme éloquent, un homme instruit. Alors, tu sais, il y a des gens qui viennent dans l'église parce qu'il y a des gens éloquents et des gens instruits. Il dit des choses sensées. Je l'aime, je l'aime. Donc, moi, je suis d'Apollos. Il y a d'autres qui disent qu'ils sont de Céphas. On croit que c'est Pierre, bien qu'on ne soit pas très sûr que... En tout cas, c'est Pierre l'apôtre, qui... parce qu'il était sans doute juif, peut-être lui était tenant plus de la position des juifs, hein, etc., plutôt que d'ouvrir l'église à tous les autres. Donc il y avait toutes ces factions et chacun s'accrochait à tel ou à tel en fonction de ses tendances. Il dit non, pas de rivalité dans l'église parce que l'église appartient à Christ et à Christ exclusivement. Même Paul, moi je sais pas. C'est pour ça que plus loin il dit, est-ce que Christ est divisé? Le verset 13 à 16, est-ce que Christ est divisé? Christ n'est pas divisé. Celui qui vous a appelé n'est pas divisé. Il reste la tête du corps. C'est lui qui mène. Donc, il n'est pas divisé. Vous ne pouvez pas vous commencer à vous diviser en disant nous dépendons de tel, comme s'il y avait plusieurs têtes dans l'Église. Il y a une seule tête, c'est Christ, une seule Église. Il dit aussi, est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Non, Paul n'a pas été crucifié pour vous. Est-ce que vous avez été baptisé au nom de Paul? Non plus. Et d'ailleurs, il va plus loin pour dire, non seulement que vous n'avez pas été baptisé au nom de Paul, mais j'en ai même baptisé très peu dans cette église. Il cite quelques noms, c'est juste deux familles, etc. Et donc, ce n'est pas ça qui doit faire que vous attachiez à l'une ou l'autre personne. Attachez-vous à Christ, le corps, la tête du corps. Amen. Mais il tient à rappeler que lui a été appelé pour évangéliser. Il tient à le rappeler. Il faut savoir quelle est sa mission. Dieu qui nous appelle, c'est à quoi il nous appelle chacun d'entre nous. Et lui, il dit, moi, il m'a appelé pour évangéliser, mais pas pour baptiser. Ce n'est pas parce qu'il veut minimiser le baptême. Non. Le baptême a sa place. Mais quand même, un message qu'il veut passer pour dire que ce n'est pas le baptême qui donne le salut. Donc, moi, je me consacre à ce à quoi il m'a appelé. Annoncer Christ pour que la croix de Christ ne soit pas vaine. Ça, c'est... Le verset 17, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'évangile. Et dans son appel, c'est vraiment ça, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Nous allons au verset 18, jusqu'au verset 25. Il dit « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit « Je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. » C'est une citation de Ésaïe 29, 14. Il dit « Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, pendant que les gens se divisent, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. Ici, il va donner les raisons. Quelles sont les raisons qui sont à la base de ces divisions? Qu'est-ce qui fait que les gens sont divisés? Il y a plusieurs raisons que nous allons retrouver dans ce passage. D'abord, au verset 18, il dit, la première raison, il dit, c'est parce que la croix est une folie pour ceux qui périssent, pour ceux qui ne sont pas sauvés, pour ceux qui n'ont pas connu, qui n'ont pas été connus, qui n'ont pas de communion avec Dieu. C'est vraiment une folie. Pourquoi est-ce que c'est une folie? Parce que le message de la croix, c'est rien d'autre qu'un message de renoncement à soi. Lisons Marc 8, 34. C'est une folie. Demander à quelqu'un de renoncer à lui-même, écoute, c'est quoi? Moi, je deviens quoi? L'homme a tendance à se voir lui. Marc 8, 34 dit ceci. Puis, ayant appelé la foule, c'est Jésus qui parlait, en parlant donc du prix à payer pour être un disciple, il dit, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le message de la croix, c'est un message de renoncement à soi-même. J'ai dit, je renonce à moi et je suis un autre. Celui qui m'a sauvé, celui qui m'a aimé, celui qui est mort pour moi à la croix. C'est une folie pour les gens normaux. Ceux qui sont perdus disent, c'est quoi ça? Renoncer à moi? Non. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Je ne lui ai rien demandé. Non. Le message de la croix est folie parce que c'est un renoncement à soi. C'est aussi une folie parce que le message de la croix nous demande l'obéissance. Jésus dit, si quelqu'un veut venir, qu'il renonce et qu'il me suive. Qu'il me suive, ça veut dire que là où je lui dirais d'aller, il doit aller. Obéissance à Dieu. Et ça, on n'aime pas beaucoup. Même en tant qu'enfant de Dieu, on n'aime pas beaucoup d'obéir à Dieu. On n'aime pas beaucoup. Ceux qui veulent obéir, c'est eux qui comprennent ce que c'est que le message de la croix qui paraît comme une folie pour ceux qui périssent. La troisième chose, justement, qui fait que le message de la croix paraît comme une folie, c'est parce que ces deux attitudes, renoncer à soi-même et obéir, nous conduisent forcément à l'humiliation. Tu n'es plus toi-même, tu dépends d'un autre, tu t'es laissé aller entre les mains, tu te laisses guider. C'est plus toi, tu es humilié. Et cette humiliation peut conduire à la mort. L'exemple de Jésus est typique. Il a renoncé à la gloire qu'il avait en haut, il est venu, il est descendu pour obéir à son Père. Il a été humilié à la croix. C'est vraiment le message. Il a été humilié à la croix et il nous a donné réellement l'exemple. Alors le message, la prédication de la croix est une folie. Ceux qui ne comprennent pas ce que Christ a fait, c'est réellement une folie. De dire, moi, je n'abandonnerai pas mes affaires pour suivre quelqu'un que je ne connais pas. Moi, je n'obéirai pas à quelqu'un que je ne connais pas. Moi, je n'accepterai pas d'être humilié. Voici une première raison que l'on va qualifier d'égocentrisme. Quand on regarde trop à soi, l'égocentrisme est une raison qui était à la base de toutes ces divisions et c'est pourtant ce message, justement, d'abandon qui conduit à la préservation, qui conduit au salut. L'égocentrisme, c'est donc d'être centré sur soi-même et refuser toute idée de sacrifice. C'est cela l'égocentrisme et c'est une des raisons des divisions. Ceux qui étaient riches, ils ne voyaient qu'eux, ils ne voulaient rien savoir, qu'on les empêche de vivre comme ils veulent L'égocentrisme a été une des raisons des divisions. Ça, on le voit au verset 18. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu, forcément, parce que ça nous permet de passer à travers toutes sortes de situations, parce que nous puisons à une source où ceux qui périssent ne peuvent pas puiser. Amen. Et Paul, dans ses bonnes habitudes, il aime toujours étayer, il aime toujours appuyer ce qu'il dit par des versets de la Bible. Au verset 19, il illustre donc la futilité de la sagesse humaine sans Dieu, par ce verset de Ésaïe 29, 40. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence de l'intelligence. Ça parle des derniers temps. Quand Christ reviendra, quand il viendra instaurer son royaume, dans les derniers jours, toute sagesse humaine disparaîtra et la sagesse humaine ne mène nulle part. Voici le message qu'ils veulent passer. Donc, la deuxième raison qui fait qu'il y a des divisions, c'est qu'il y a des gens qui travaillent avec la sagesse humaine. Et Dieu dit, écoute, vous ne pouvez pas, parce que c'est des choses qui disparaîtront. Hein. Quand Christ reviendra, il cite ce passage de Ésaïe 29, 14. Versets 20 à 21, il dit, où est le sage, où est le scribe, où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? C'est encore une autre citation. Il prend une partie de Ésaïe 19. Je n'ai pas noté le texte, mais Ésaïe 19, verset 12. Voilà, c'est ça. Donc, il paraphrase ça aussi. Il dit, où sont donc tes sages, qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte? Où sont tes sages? Pendant qu'il y a des méfaits qui se faisaient, où sont tes sages, toi qui as peur de l'Égypte? Où sont tes sages? Où sont-ils? Qu'ils te disent ce qui va arriver, qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte. Personne ne le sait, mais Dieu savait ce qu'il devait faire. Donc, on ne peut pas compter sur la sagesse humaine. Paul paraphrase donc Ésaïe 19, 12 pour montrer que seule la foi en Christ permet à quelqu'un de trouver le chemin du salut et non la sagesse humaine. Donc, ce qu'il veut dire en termes clairs dans les versets 20-21, où est le sage? Où est le scribe? Le scribe, pourquoi il parle de scribe ici? C'est parce que dans le temps, quand les peuples allaient en guerre, il y avait des rôles qui étaient donnés à des personnes. Et il y avait des scribes qui accompagnaient toujours le peuple pour prendre en note le nombre de victimes, le nombre de trucs, le nombre de des scribes. Où sont-ils? Où sont-ils? S'ils sont sages, où sont-ils? Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Les gens qui raisonnent, où sont-ils? Ils ne peuvent plus raisonner aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire avancer les choses aujourd'hui. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Ils ne peuvent rien faire. Donc, seule la foi en Christ permet à quelqu'un de trouver le chemin du salut. Donc, ce n'est ni la sagesse, ni les miracles. Tous ces gens qui accompagnaient, comme je disais, les gens en guerre, les scribes, c'était pour voir des miracles et prendre en note des choses qui se sont passées pendant qu'ils sont en combat et ramener. Où sont-ils? Donc, ni les miracles, ni les raisonnements aujourd'hui ne peuvent changer. Et il a plu à Dieu que seul le contenu de l'évangile conduise au salut. Ni les raisonnements des gens, ni la sagesse des gens, ni les calculs, ni tout ce que les scribes pouvaient prendre en note, etc. Tout ça ne sert plus à rien aujourd'hui. Amen. Le verset 22 à 25, il dit « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. » Oui, parce que pour les Juifs, la prédication de l'Évangile était une folie, parce que pour eux, c'était impensable d'imaginer le Messie qu'ils attendaient comme quelqu'un qui viendra pour souffrir. Ils s'attendaient à voir un Messie puissant, un Messie fort, un Messie qui vient installer un royaume fort et puissant. Eux, ils veulent des miracles. Ils veulent voir la main de ce Messie pour y croire. Il dit, les Juifs demandent des miracles. Sinon, ils ne croiront pas qu'il est Messie. S'il était Messie, il n'allait pas mourir sur ce bois infâme parce que mourir sur le bois infâme, c'était comme une malédiction pour eux. Donc, ce n'est pas possible d'avoir un Messie crucifié. C'est pour ça que c'était un scandale pour eux. C'était une pierre d'achoppement, comme le dit Ésaïe 8, versets 14 et 15. Jésus est vu déjà à l'époque d'Ésaïe, comme étant, il sera comme une pierre d'achoppement, une pierre sur laquelle ils vont s'achopper ou je ne sais pas quoi, trébucher, parce que ce qu'il fera sera contraire à leurs attentes. Et c'est exactement ça. Donc, eux, ils attendent des miracles, ils attendent un Messie vivant, puissant, qui vient avec force. Les Grecs, eux, et ça, ça démontre leur incrédulité, évidemment. Même chose pour les Grecs. Eux, ils veulent, c'est des philosophes. Hein, les Grecs, les grands philosophes de l'histoire ancienne, c'est des gens qui raisonnent, etc. Il dit, les Grecs cherchent la sagesse. Ils veulent des choses qui sont bien structurées, qui ont une certaine logique et qui conduisent à une certaine conclusion. Mais quand on étudie l'histoire de Jésus, c'est pas logique. C'est pas logique. Il dit, mais il vient comme le Messie, on le cloue à la croix, il meurt comme un brigand, comme n'importe quoi. Ce n'est pas logique. Donc, ils veulent tout expliquer au moyen de la sagesse humaine, la sagesse qui glorifie les hommes. Ils veulent tout expliquer. S'ils ne peuvent pas l'expliquer, ils n'y croient pas. Les Grecs, eux, ils veulent tout comprendre avec leur intelligence et leur raisonnement. Alors donc, étant donné que dans leur croyance aussi, tout ce qui est matière était mauvais. Tout ce qui est matière était mauvais. Tout ce qui était bon pour eux, c'était des choses spirituelles. C'est seulement ce qui est spirituel qui est bon. Alors ils disent, si ce qui est matière n'est pas bon, comment ça se fait que Dieu peut devenir un être humain, peut devenir la chair humaine? Comment Dieu peut venir s'incarner dans la chair ici et venir souffrir, et venir jusqu'à être crucifié? Pour eux, c'est une folie, c'est tout simplement absurde, parce que ça ne peut pas s'expliquer, parce qu'ils se basent sur leur philosophie, sur leur sagesse. Versets 26 à 28. Considérez, frères, donc sur base de ce qu'il vient de dire, et il commence à tendre vers la fin de son intervention, il dit, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Sans vouloir abaisser les Corinthiens auxquels il s'adresse, il veut quand même leur rappeler, il dit, mais parmi vous, là, vous qui avez été appelés, moi je vous ai connus au moment de votre conversion. Il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Ce n'est pas pour les rabaisser. Il dit, je vous ai connu au moment de la conversion. Hein? Ne venez pas me raconter d'autres choses. Je vous ai connu. Il leur rappelle qu'à leur conversion, il n'y avait pas, la majorité étaient des gens démunis, sans formation, sans instruction, etc. Mais peu étaient influents. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient influents. Peu étaient influents, peu étaient connus parmi ces peuples là-bas, peu étaient instruits. Et ceux qui l'étaient peut-être au départ, du fait de leur conversion, ben, ils ont perdu de leur influence. C'est comme ça. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu deviens la risée de tout le monde. Quand tu deviens enfant de Dieu, n'importe qui peut venir t'écraser, etc. C'est cela. Il dit, mais ça se peut qu'il y en avait. Mais je sais que plusieurs ont perdu de cette influence du fait qu'ils se sont convertis au moment de la conversion. Donc Dieu, ce qu'il veut dire, c'est que Dieu utilise des gens qui n'avaient aucun statut selon les normes du monde. Il cherche les choses faibles pour en faire des fortes, des choses viles pour leur donner une valeur. Dieu cherche des gens qui n'ont pas de statut. Il cherche des gens, pas des célébrités, pas des gens qui ont des gros diplômes. C'est pas ce que Dieu veut utiliser. Dieu sait que pour plusieurs, ces choses ici dont on parle, là, dont on peut se vanter, sont un frein pour entrer dans le royaume de Dieu. Et il y a beaucoup de gens. Hein, quand on dit que ça va être plus facile pour un chameau d'entrer, c'est un peu ça. C'est beaucoup plus difficile. On s'attache à des titres, on s'attache à des positions, on s'attache à sa connaissance. Moi, j'ai étudié, moi, je connais, je comprends des choses. Hein. Difficile que Dieu utilise. Parce que c'est souvent un frein à l'humilité, c'est souvent un frein à ce que vous puissiez faire la volonté. Voilà pourquoi, donc, Dieu ne cherche pas des célébrités ni des grands diplômés pour accomplir son œuvre. Et si on se rappelle de la position des apôtres, c'est ça. La plupart des apôtres, ils étaient qui? C'était des pêcheurs, hein. Sans instruction, qui n'ont pas été à l'école comme Paul l'a été, etc. Mais Dieu les a utilisés puissamment. Dieu les a utilisés puissamment. Et c'est ça le paradoxe. C'est vraiment le mot qu'il faut utiliser dans les choses du royaume de Dieu. C'est que les choses du royaume de Dieu sont différentes des royaumes de ce monde. C'est complètement différent. Dans le monde, tu donnes un gifle, on te dit tu réponds. Dans la Bible, on te dit tu donnes et tu donnes l'autre côté qu'on te donne un deuxième gifle. En tout cas, c'est des choses. Le paradoxe du royaume de Dieu, c'est quasiment cela. Dieu va toujours se servir des choses folles, des choses viles, que tout le monde néglige, etc., qui sont sans valeur. Il va se servir des faibles, des gens qui disent, moi je ne peux pas. Dieu dit, j'aime des gens comme ça, parce que moi je vais te rendre capable. des choses viles qu'on néglige, on dit, non, 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 c'est toi que je vais utiliser et le monde va être étonné. Voici le paradoxe du royaume de Dieu. Des choses qu'on méprise. Est-ce qu'il peut venir quelque chose de Nazareth? Des choses qu'on méprise. Voilà ce que Dieu utilise. Et de cette façon, donc, Dieu se glorifie. Dieu se glorifie. Et il le fait afin que personne ne se glorifie devant Dieu. C'est cela. Parce que si c'était par nos diplômes, si c'était par nos connaissances, si c'était par nos richesses, si c'était par les influences que nous avons, que Dieu nous choisit, vous allez dire, mais c'est parce qu'il m'a trouvé déjà dans cette position qu'il m'a utilisé. Et Dieu n'aime pas ça. Il ne veut pas donner sa gloire à personne d'autre, à aucune autre personne. De cette façon, il n'y a aucun doute qu'en celui qui accomplit des choses, etc., la gloire ne reviendra pas à une personne vile, méprisée, qu'on connaissait vite. Mais on va dire, la gloire va revenir à celui qui l'a appelé, à celui qui l'a utilisé, à celui qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Aucun pécheur ne peut prétendre d'être sauvé par sa propre intelligence, sa propre force ou ses connaissances. Amen. Et on arrive à la fin donc de ce chapitre premier. Il dit, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. C'est par Jésus-Christ que nous obtenons toutes ces choses. C'est par Jésus-Christ que nous sommes sanctifiés. C'est par Jésus-Christ que nous avons la sagesse. C'est par Jésus-Christ que nous avons la justice. C'est par Jésus-Christ que nous avons la rédemption. C'est par lui, c'est par lui. Et Dieu veut que le salut soit obtenu par grâce, purement par grâce et non par les capacités de n'importe qui. Et ce message, il faut qu'on le comprenne, c'est vraiment par grâce que nous l'avons. Je ne peux pas dire parce que moi je suis meilleur qu'un autre, parce que je suis un gars sans problème depuis ma naissance. Non, 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 non. C'est vraiment par pure grâce que nous avons toutes ces choses. Et c'est pour ça qu'il termine par ce passage de Jérémie 9, verset 24. Donc, il cite à la fin, il dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Donc, si on a à se glorifier de quoi que ce soit, qu'on le fasse dans le Seigneur et rien que dans le Seigneur. C'est à cela que Dieu prend plaisir et nous devrions le savoir, nous aussi, aujourd'hui. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit réellement, comme nous disent les deux textes par lesquels je vais terminer, les deux textes de Matthieu, Jésus qui parlait, être comme des petits enfants, sans prétention aucune. Simplement dit, mais papa a dit oui, papa veut, oui, j'ai fait oui, papa, etc. Matthieu chapitre 18, verset 3, dit ceci. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Pas prétendre sur quoi que ce soit, tout ce que nous avons en Jésus-Christ, on n'entrera pas dans le royaume des cieux si on ne se considère pas comme un enfant. Qui croit tout simplement que ce que je suis, ce que j'ai obtenu, où je suis rendu, c'est par la grâce de Dieu. Vraiment, le message central, c'est celui-là. Le deuxième texte, c'est dans Matthieu 11, un peu en avant. C'est toujours dans le même sens. Jésus qui parlait encore dans 11, 25, il dit, « En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. » Alors, où sont les sages? Où sont les intelligents? Où sont les érudits? Où sont tous ces gens-là qui prétendent connaître quoi que ce soit? Nulle part. Dieu les cache. La sagesse d'en haut. Hein? La sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas. Ils se font prêter les bretelles pour la sagesse d'en bas, mais ce qui nous aide à avancer, c'est la sagesse d'en haut. C'est celle qui est révélée à ceux qui se comportent comme des enfants. Donc, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde et de ce que tu les as révélées aux enfants, ceux qui se comportent comme des enfants, ceux qui ne prétendent à rien. Ils n'ont rien à, je n'ai rien à prétendre. La gloire est à toi. La gloire est à toi, Seigneur. Et tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est grâce à toi. Donc, il vient de mettre une clarification importante auprès de ces gens qui étaient divisés pour toutes sortes d'idées. C'est comme il y a plusieurs groupes là-dedans, des philosophes grecs qui ont des pensées à eux. Non, non, non. Toute votre sagesse, toute votre intelligence ne vaut absolument rien. Ne vous mènera nulle part. Ce que Dieu attend de vous, c'est que vous puissiez vous rabaisser comme des enfants, croire que vous allez obtenir le salut par pure grâce, pas par des calculs savants, pas par des raisonnements mais par pure grâce et juste en vous soumettant, en abandonnant tous ces pièges qu'il y a, l'égocentrisme, la sagesse humaine sur laquelle vous vous basez, des raisonnements humains, votre incrédulité. Les Juifs étaient incrédules, disaient, mais le Messie ne peut pas être celui-là, parce que non, le Messie que nous attendons, c'est autre chose. Les Grecs, ils disent, impensable, Dieu qui devient matière, ça n'existe pas. Donc, arrêtez tous ces gestes d'incrédulité et puis marchez réellement en nouveauté de vie et le Seigneur se glorifiera dans votre vie. Amen. Amen.